C'est une extrême pudeur qui. Voilà, je. Mais
En,
j'admire Tardi, par contre. Le dernier ouvrage de Tardi est phénoménal.
en même temps, il faut quand même dire une chose, c'est que par rapport aux tranchées, il y a une question qui est fondamentale, c'est comment représenter? Beaucoup de peintres se sont posés cette question.
Elle se la pose tout le temps. Il se la pose notamment.
Mais quand on parle des vrais peintres, et il n'est pas le seul. Évidemment, là, on parle de peintres allemands dans les tranchées. La plupart des œuvres connues ou des gens connus sont des gens qui étaient du côté français. On connaît toujours les vainqueurs. Mais la question est la même. Quel que soit le camp, la question est la même. Comment est-ce qu'on peut rendre compte d'une horreur telle que celle qu'ont vécue les poilus en 14-18? Alors, nous n'y étions pas. On subodore, on postule, on fait de l'empathie, enfin peu importe. Mais quand on voit ce qu'en disent les peintres, et on était tombé sur une correspondance de Taudix, enfin c'est Joe qui me l'avait envoyé, qui était tombé dessus, qui est assez passionnante. On voit qu'en fait, la plupart de ces peintres deviennent cubistes, parce qu'ils refusent cette réalité, d'une part, ce que va faire Heinz aussi, puisqu'il va refuser la couleur pendant des années. Pendant des années, il ne pourra plus dessiner qu'en noir et blanc. Simplement parce que la couleur, c'est le sang. C'est comment ne pas dessiner le sang, le rouge.
C'est peut-être pour ça aussi qu'il ne retrouvera pas le paradis perdu dans cette Océanie à laquelle il avait découvert une autre couleur. Il y a ce contraste entre les.
Il va devoir trouver une autre grille de lecture de chromatique. Et pas seulement chromatique d'ailleurs, même tout simplement de que dessiner. Mais autre chose, c'est de voir comment la plupart des peintres qui sont allés se frotter réellement aux tranchées ont viré vers le cubisme. Pas pour une question de couleur, mais pour une question de représentation. D'une part, parce que ce qu'ils avaient devant eux était cubique, un horizon plat. Je veux dire, il n'y a plus un arbre qui tient. Il n'y a que les canons, les tranchées. Je veux dire, tout est géométrique devant eux, devant leurs yeux, pendant des années ou des mois. Ça dépend.
Une vision éclatée, une vision parcellaire. Donc le même sujet vu de 20 points de vue à la fois en un seul instant, c'est l'explosion. On est là-dedans.
Et d'autres.
Si on veut faire une métaphore, on est là-dedans.
D'autre part, parce que c'est un refus de la réalité. Et le cubisme devient à ce moment-là, même s'il naît avant, donc on le disait tout à l'heure, le cubisme naît en 1908, si je ne me trompe pas, mais devient une espèce de refuge pour un peintre qui ne veut plus voir le réel, parce qu'il suffit de dessiner des lignes.
Sur la place de l'artiste et de l'art à l'intérieur de cette violence, vous avez trouvé, Thierry Belfoy, une sorte de métaphore à laquelle je pensais en écoutant Joe Pinelli dire « Je ne peux pas dessiner une croix gammée ». C'est celle de votre protagoniste, Hein van Furlo, qui refuse pendant tout un temps de peindre ses camarades de tranchée en se disant je refuse de vous représenter parce que c'est comme si il les faisait mourir une deuxième fois alors que l'idée, le projet est de les faire survivre.
C'est une scène que j'aime beaucoup parce que sans être, comme je l'ai déjà dit, un connaisseur des tranchées, qui peut être connaisseur des tranchées aujourd'hui, ils sont tous morts. Donc j'ai aucune prétention là-dedans. Enfin, en plus, c'est vrai qu'on est tous les deux des très grands admirateurs de l'œuvre de Tardi là-dessus, qui nous dépasse tous. Et quand on se demande qui a le mieux représenté les tranchées de tous les peintres qui y sont allés, bah, malheureusement, on est obligé de dire qu'aujourd'hui, c'est pas un peintre qui est allé, c'est Tardi qui n'est pas allé.
Donc, surtout, il n'en est pas revenu. Il n'en est jamais revenu. Et...
Il y restera pour la vie, je crois.
Mais c'est Tardi.
C'est vrai que c'est incroyable de penser qu'aujourd'hui, celui qui représente le mieux picturalement ou narrativement la guerre des tranchées est quelqu'un qui n'y a pas mis les pieds. Et Dieu sait qu'on admire tous les deux l'œuvre de Jacques Tardi. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, on est devant effectivement quelque chose qui est extrêmement fort. Et lorsque on se pose des questions sur la manière dont ça peut faire écho à des vies, des manières d'être de chacun des protagonistes, des personnages, on voit qu'en fait, il n'y a qu'une seule manière d'appréhender la suite, c'est d'accepter l'idée qu'il y a un avant et un après. Et celui qui décrit, qui dit ce que ça représentait pour lui, ne peut pas arriver à mettre des mots là-dessus. Il ne peut que dire, voilà, il y a eu ça, et après ça, il y a autre chose. Et c'est ce que va faire Hein van Furlo. Il va dire, je suis passé par là, je dois l'accepter, il va mettre un certain temps à l'accepter, ça va mettre beaucoup de temps. Hein. En fait, en 1924, lorsqu'il s'enfuit, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il s'enfuit, il quitte l'Allemagne, pas à cause de la guerre des tranchées d'ailleurs, il quitte l'Allemagne parce que la montée du nazisme...
Il quitte l'Allemagne parce qu'il devient un voyeur, comme tous les artistes, il sent ce qui va advenir.
Parce que l'art n'a plus rien à voir avec ce que lui a connu, parce qu'il n'a pas sa place comme artiste, il n'a pas sa place comme citoyen, même au milieu des anarchistes, il ne comprend pas ce qu'il fout. Mais quand il quitte l'Allemagne, ben, il se rend compte qu'effectivement, quand il fait le bilan, il n'a plus rien à retenir de tout ce qu'il a vécu là. Et donc, il n'y a qu'une chose à faire, c'est la fuite, c'est partir. Et c'est une fuite qui est quelque part salvatrice et qui est quelque part pas du tout une fuite d'une lâcheté comme on pourrait les voir en général. C'est-à-dire que quand il se retrouve sur l'océan et qu'il commence à dessiner les lumières de coucher du jour, les lumières de l'eau, du ciel, de la mer, du sable, puisqu'il se trouve dans un chapelet d'îlets qui sont tous plus beaux les uns que les autres, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche à retrouver la gamme chromatique qu'il a perdue en 14 ans. Ce n'est que ça. Et en fait, tout ce qu'on peut croire être les suites de sa période fauve ou autre, entre-temps, il y a eu la période papou, de toute façon, donc il les avait déjà mis à terre. C'est surtout la guerre 14 qui va être ce frein à ses possibilités de s'exprimer graphiquement. Et après, il va chercher comment renouer avec la couleur. C'est un peu ce qu'on a raconté dans un autre album, ce petit livre qu'il a, qui est un petit appendice, on va dire, que personne ou presque ne verra, parce qu'il est tiré à 66 exemplaires signés. Mais voilà, on voulait raconter ça, c'est-à-dire comment, finalement, à travers ces œuvres, œuvres qui sont bien entendu celles de Joji, à travers ces œuvres, comment on voit le chemin qu'il parcourt.
Pour retrouver la couleur. On voit le retour, le passage vers le bleu et vers l'expressionnisme.
Et l'expressionnisme, c'est-à-dire de redonner un sens, voilà un exemple parfait, de redonner un sens à ses émotions sur le papier, enfin sur la toile, sur chose qu'il a pu perdre à un certain moment. C'est-à-dire que quand on regarde ses dessins durant la Première Guerre mondiale, quand on voit les carnets de croquis qu'il a fait, on se rend compte qu'il n'y a aucun aspect expressionniste dedans. C'est de la pure observation, c'est du carnet de croquis, c'est du carnet de voyage à la limite, mais enfin, voyage étant un mauvais mot, mais voilà, c'est, il rend compte de ce qu'il voit.
Dans l'album que tout le monde peut voir, on peut avoir une série d'extraits, de pages extraites du supposé carnet de croquis de votre personnage. Pourquoi avoir voulu terminer l'album avec cette énigme ou fausse énigme, parce que bon, est-ce que ça veut dire que l'autre interrogation que l'on pourrait tirer à la fin de la lecture de ce livre est qu'il y a non seulement une réflexion sur l'art, mais aussi une réflexion entre la fracture qui règne entre le réel et le plausible, et que vous avez voulu mêler les deux. Alors là, je ne sais pas, c'est Thierry Belfort qui répond.
Oui, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment.
Pourquoi
c'est de la cuisine interne, mais alors de chez interne. Quand on fait un album aussi long, le nôtre fait quasiment 80 pages, on arrive dans des gabarits de livres chez Dupuis qui sont, on explose quoi, on explose les tarifs, malheureusement pour nous, parce qu'on aurait voulu que les livres soient moins chers, mais on explose aussi les formats habituels. Or, on ne voulait pas, et ça a été, je me souviens que je l'ai dit à Joe dès le départ, ça a été une exigence de ma part, je ne voulais absolument pas que ce livre soit scindé en deux parties. C'était exclu, parce que je voyais bien qu'avec la technique qu'on allait employer, qui n'est vraiment pas évidente, je veux dire, c'est pas facile d'accès, de dessiner à l'huile, enfin de faire accepter au lecteur ce côté pictural, même si on a essayé d'être très clair, très lisible, gaufrier 9 cases par page, enfin tous les codes de la bande dessinée sont respectés, on savait que c'était quand même difficile, on sait déjà depuis lors, parce que certains nous l'ont dit, raconté, qu'il y a des gens qui l'ouvrent, qui regardent et qui se disent c'est pas pour moi, quoi. Voilà. Donc on voulait que tout soit de notre côté. Alors, arrêter au milieu de l'histoire, c'est vraiment dire aux gens il va falloir faire le même investissement, mais dans un an, les gars. Bonne chance.
Est-ce que je peux revenir à ma question de départ là, parce que...
Bref, tout ça pour dire.
Ma question de départ, c'était sur le réel et le plausible.
Alors, tout ça pour dire, parce que je disais que c'est de la cuisine intérieure. Quand on arrive à une telle pagination, on ne se rend pas bien compte. On dit voilà, on vous lit autant de pages. Et on a un jour l'assistante du directeur éditorial qui nous appelle, mais on est à deux semaines, même pas, hein, une semaine et demie de figer l'album définitivement pour l'impression.
On est totalement sur la fin là, et dans l'urgence.
On nous dit, il manque un certain nombre de pages pour avoir un cahier. Parce que les livres sont composés de cahiers. Ah, bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors moi, très fougueux, je dis, mais c'est le moment ou jamais de montrer les pages de crayonné de la bande dessinée qui sont le storyboard, mais alors, dans le genre storyboard de luxe, c'est pas mal, hein, de Joji, qui sont extraordinaires, qui sont faits en quatre couleurs, que personne n'a vu, et j'envoie illico les scans de ça, de ces pages, à Julie Jodard, qui est donc l'assistante du directeur éditorial, qui me répond, ah ouais, c'est vachement beau, et tout. Deux jours après, le directeur éditorial se réveille, je dis ça en rigolant, parce qu'il est en train de déménager, nous envoie vite un mail en disant, arrêtez tout ça, on ne va pas rentrer dans la cuisine intérieure, vous terminez le livre. Un livre s'achève, en plus il s'achève sur du silence. C'est vrai que la fin, c'est vraiment une symphonie qui s'achève, où il faut regarder les images, et il faut de moins en moins lire, et il y a de moins en moins de textes, il y a de plus en plus de silence, et le silence est vraiment musical. Vous n'allez pas, en terminant un livre sur le silence, en tournant la page qui suit, emmener le lecteur dans la boutique et lui dire « Voilà comment on a fait, c'est le making-of et tout. » Et il a totalement raison. Et donc on décide à ce moment-là de ne pas mettre ces pages de making-of. Et on se dit « Mais qu'est-ce qu'on peut mettre puisqu'il faut un cahier qui se termine à page machin ?» On dit bah, « Forcément, les carnets de Joe. » Mais si on met les carnets de Joe tels quels, ça devient de nouveau du making-of. On va dire que ce sont les carnets de Heinz. Et comme entre-temps, nous avons fait un petit livre chez PLG, éditeur historique de Joe, éditeur indépendant avec qui il a travaillé depuis très très longtemps, qui s'appelait Féroce Topic et qui était une étude de la peinture de Hanson Furlow, bah on s'est dit, puisque j'y avais inventé un personnage qui s'appelait Dietrich Krüger et qui était un soi-disant professeur berlinois d'histoire de l'art et qui commentait toute la peinture de Heinz, qui commentait même le parcours biographique de Heinz, on s'est dit, réemployons pendant quelques lignes, ce personnage d'Dietrich Krüger, et gommons le nom, parce qu'il est carrément gommé, hein, il est scanné, enfin c'est scanné, mais gommé à la palette graphique. Gommons le nom de Joe Pinelli sur les carnets de Joe, et poursuivons la magie avec un personnage qui va rendre crédible ce petit addendum, qui a eu pour effet terrible, parce qu'on s'en rend compte depuis deux jours, qu'il accrédite complètement la thèse du peintre existant. Et donc, pour revenir à la question initiale, je sais que je suis long.
Pour quelqu'un qui, par ailleurs, est aussi journaliste.
Oui, mais j'aime parfois être clair. Et donc, voilà, pour revenir à la question initiale, il n'y a aucune volonté de mystifier le lecteur. Il n'y a aucune volonté de lui faire croire, à travers un petit addendum comme celui-là, quelques dessins d'un soi-disant carnet du peintre introduit par un soi-disant professeur berlinois d'histoire de l'art, de prendre le lecteur, je ne vais pas dire pour un con, mais de lui dire voilà, le personnage a vraiment existé. Mais on se rend compte que c'est ce qui se fait. C'est-à-dire qu'on l'a fait, nous, pour répondre à une demande de l'éditeur et en jouant sur un personnage qui nous plaisait, qui était ce personnage que j'avais inventé pour un autre livre, avec Joji, et on s'est dit, bah, tant qu'à faire, jouons ce jeu à fond. Et on se rend compte qu'en fait, et c'est assez déroutant, il suffit qu'on mette trois lignes signées d'un soi-disant professeur dont personne ne vérifie l'identité, pour que tout à coup, les peut-être petits doutes qu'on avait nourris pendant la lecture de la bande dessinée, en disant, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai, hop, tout ça, ça vole d'un coup en éclat, et on y croit, parce qu'un professeur a dit que... Et c'est assez déroutant pour nous de se rendre compte du poids que ça a eu par rapport à l'ensemble de l'histoire et de la façon dont les gens le prennent. Mais on doit reconnaître aussi que depuis le départ, on a voulu être crédible. Et qu'en faisant ça, on jouait un jeu un peu à la Skeleton et Peters, des cités obscures, de toujours mettre des notes en bas de page, de toujours dire, voilà, telle personne l'a certifié conforme. On est en train de préparer un spectacle, une lecture spectacle qui va être présentée pour la première fois le 10 mars chez Bruxelles pour le vernissage de l'expo qui nous est consacrée là-bas. Et la lecture spectacle, c'est comment ce professeur, donc créé de toutes pièces, Dietrich Krüger, rencontre la peinture de Hanson Furlow. Donc nous-mêmes, on joue avec ça.
On est sur un troisième niveau. Ce n'était pas intentionnel, ce n'était pas prémédité. Ça s'est installé tout doucement.
Mais alors, je reviens quand même à ma question, voilà. Puisque comme ni l'un ni l'autre n'y a répondu, mon interrogation était, est-ce que autant la question sur l'art et le sens que peut encore avoir l'art dans la violence, est-ce que vous n'avez pas, par le hasard de ces exigences éditoriales, trouvé une forme de réponse en disant que le réel et le plausible sont aussi deux éléments qui peuvent être comparés à ce qu'est l'art et la représentation du réel? Et finalement, en inventant ce personnage qui devient plausible, vous avez fait une sorte de parabole. Mais il ne faut pas répondre.
C'est pas comme ça que je voyais la question. mais j'avais pas compris la question comme ça. Là, honnêtement, je pourrais pas répondre. Honnêtement, je pense que ça fait partie des choses qui nous dépassent.
C'est peut-être un effet a posteriori. C'est peut-être une lecture que l'on peut faire par la suite.
Je vois très humblement la question.
J'ai une petite idée là-dessus. Il est fort possible que ces prochains mois, quelqu'un nous dise « Mais ce type-là existe, je le connais, et c'est vraiment sa vie. » On est parti d'éléments tellement réels, tellement vrais, qu'on a assemblé de façon romanesque, qu'on est face à quelqu'un qui a la possibilité d'exister. J'ai cette idée-là, qu'il est possible qu'on le rencontre.
C'est peut-être une manière de dire aussi que l'art reste survivant de tous les cataclysmes. Mais on ne va pas relancer un débat là-dessus.
Alors pour ça, en conclusion, un compositeur, Ernst Toch, qui émigre en 30 aux USA, qui fait une dépression, une crise cardiaque, qui est devenu compositeur de films, alors que c'est un compositeur d'avant-garde dans les années 20. À partir de 40, il se dit, mais là, 45... toute ma famille est morte, je suis américain dorénavant, je meurs mal à la composition. Et là, sur les 10 dernières années qu'il lui reste à vivre, après une crise cardiaque, une dépression nerveuse, il compose 8 symphonies, c'est remarquable, extraordinaire. Et j'ai lu ça il y a 2 jours, et c'est pas loin de la position de notre personnage. Et là, de nouveau, le réel recoupe ce qu'on a imaginé.
Alors, le prochain album que vous signez, que vous co-signez, si le projet existe et s'il n'est pas secret, ce serait...
Il s'appellera Les ailes de la montagne, au moins le titre est sûr. Il se passera à Dam, il démarrera dans les années 1890 à peu près. Nous irons jusqu'en 1960, je pense, puisque j'aimerais que ça dépasse la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle le personnage principal aura un rôle à jouer. Et il nous emmènera de Dam, donc des polders, des lumières blanches et basses entre les peupliers, jusque très 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 loin, au-delà des mers. Voilà. Mais on ne sait pas chez qui, puisque nous n'avons absolument rien dit encore à notre éditeur.
Bien. Giorgio Pinelli, Thierry Belfroy, je vous remercie d'avoir répondu en abondance à mes questions, à mes questions à propos de ce superbe album, parce qu'il faut quand même en dire un mot aussi d'appréciation, ce superbe album intitulé Féroce Tropique, paru dans la collection Air Libre chez Dupuis, et dont je recommande très très vivement la lecture et la relecture, parce qu'il offre des perspectives de réflexion et d'émotion sur toute une série de domaines que nous avons pas eu le temps d'aborder, parce que nous sommes en radio et c'est de la bande dessinée, c'est de l'image, c'est du texte, c'est de l'émotion. Merci Thierry Belfroy, merci Giorgio Pinelli.
Les rencontres d'Edmond Morel.